Je vous propose qu'on s'intéresse à la journée régionale Sud Biodiv qui a eu lieu le vendredi 14 octobre 2022 à Marseille. C'était la première édition et elle a eu pour thème Provence-Alpes-Côte d'Azur, biodiversité, eau et qualité de vie, des défis indissociables. Un an après la tenue du Congrès mondial de la nature, également à Marseille, comment les différents acteurs de la région s'emparent de la question de la préservation et de la biodiversité? C'est une question à laquelle peut répondre Anne-Claudius Petit, présidente de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, l'ARB, qui a co-organisé l'événement Subbiodiv. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment s'est passée cette journée du 14 octobre? Quelles structures étaient présentes, étaient conviées? Quels invités étaient attendus?
Alors, c'est très très bien passé. On a eu plus de 250 participants et on était très contents parce que justement, ça reflétait bien les structures, je dirais, qui peuvent être intéressées et qui sont partenaires de notre agence régulièrement au travers de différents dispositifs et différents accompagnements. Parce qu'on a eu à la fois des associations, des entreprises, des collectivités et évidemment des gestionnaires d'espaces naturels également. Donc, tous très bien représentés. Et c'était une forte attente, en fait. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on organisait régulièrement au fil de l'année des petites conférences, des soirées pour remettre des labels. Et puis, ce Congrès mondial de la nature, il nous a montré quel point on avait besoin et envie de partager sur ce sujet de la biodiversité qui est intimement lié aux problématiques du réchauffement climatique. Hein, cet effondrement de la biodiversité, on prend conscience que c'est très, très lié. Et pouvoir aborder ces sujets tous ensemble au travers d'un événement régional, c'était l'objectif de cette journée et on a cru comprendre que les participants étaient ravis de cet événement et cette journée. Donc, je pense qu'il y aura d'autres éditions et j'espère en tout cas peut-être sur d'autres thématiques, mais voilà, on était très contents.
Cette journée, c'était plutôt à destination des professionnels.
Oui, assez peu des citoyens, si c'est votre question, effectivement. C'est vrai que notre agence régionale et d'une manière générale, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en tant qu'institution, elle s'adresse assez rarement directement aux citoyens. Mais quand on a des associations qui viennent, c'est quand même aussi... on a 55 associations, je crois, qui sont venues. C'est aussi des citoyens qui se mobilisent sur des sujets de biodiversité. Donc voilà, c'est un moyen un peu moins direct, mais c'est quand même, ça s'adresse quand même aux citoyens aussi.
Alors, et comment est-ce que vous avez perçu que les entreprises, les territoires intègrent ces problématiques environnementales? Comment ils prennent en compte aussi le réchauffement climatique dans leur stratégie de développement? Est-ce que vous avez perçu une avancée par rapport à ça depuis le Congrès mondial de la nature?
Alors, comme notre agence, elle accompagne des collectivités et aussi de plus en plus des entreprises ou des zones d'activité, donc des associations d'entreprises. Et ça, depuis longtemps, hein, on a une agence qui existe depuis plus de 40 ans. On est orienté vraiment exclusivement sur la biodiversité et sur la transition écologique des territoires depuis 3-4 ans. Donc les territoires, on les voit et les acteurs, on les voit évoluer. Et c'est notre rôle de les accompagner parce qu'il y a passé de la prise de conscience à l'action. C'est pas forcément évident et on le voit, on a parfois des citoyens qui secouent les politiques en disant mais vous voyez bien qu'il y a un problème, il faut agir. Mais le temps des élus et le temps des collectivités, il est parfois un peu long. Et nous à l'agence, c'est ce qu'on a l'habitude de gérer au travers de formations, de dispositifs d'accompagnement. Alors c'est vrai que cette journée, on a terminé en remettant des labels à des parcs d'entreprise. Il y a un label Parc Plus, à des collectivités. Il y a 36 acteurs du territoire qui ont été labellisés.
Oui, vous avez créé 3 labels. C'est une façon de mobiliser les acteurs un peu plus.
Voilà, c'est ça. Et on voit que, alors il y a une mobilisation, on les accompagne sur 3 ans, sur chacun des 3 labels, avec l'Office français de la biodiversité, avec l'Agence de l'eau, pour ne citer que ses partenaires, mais ils sont extrêmement nombreux, les agences d'urbanisme aussi, par exemple. On les accompagne sur 3 ans, on leur demande pas d'être parfait au début, justement, on les accompagne sur une démarche d'amélioration continue, en fait. Mais c'est vrai qu'on se dit que 36 sur l'ensemble des acteurs de la région, finalement, c'est assez peu. Et c'est notre rôle, justement, de, bah, déjà de dire aux labellisés d'aller voir les autres, par exemple, collectivités ou les autres parcs d'entreprise pour leur dire il y a des accompagnements qui existent et la transition écologique énergétique, c'est une solution aux problématiques qu'on connaît aujourd'hui de réchauffement climatique, d'adaptation, d'une ville plus résiliente, d'entreprises qui s'adaptent aux problèmes, aux enjeux de climatique. Voilà, on a besoin encore de diffuser. C'est vrai que cette journée, c'était aussi un bon moment pour mettre en exergue les enjeux, les solutions qui existent, les solutions fondées sur la nature, pour répondre à à toutes ces problématiques et pour les mettre en évidence, pour essayer de les diffuser plus largement, parce qu'on sent bien que le passage à l'acte, il n'est pas encore tout à fait intégré. Après, côté agents et techniciens des collectivités élus, on sait que ça prend du temps, hein, y a le temps de la décision. Mais très honnêtement, on voit des maires et des présidents de communautés de communes, une fois qu'ils sont dedans, ils sont... Mais alors, c'est les convertis, persuadés du bien fondé de leur démarche. Et après, c'est à fond. Ils abordent un sujet, par exemple l'énergie ou l'eau. Et puis après, c'est parti sur la biodiversité, sur l'économie circulaire et les déchets. Et ça fonde vraiment des politiques locales extrêmement dynamiques et intéressantes pour les habitants de la région. Au lieu de se dire, on est dans une situation horrible, qu'est-ce qu'on fait? C'est flippant pour tout le monde, hein, là on passe à l'action et on se dit, on se saisit de notre avenir et on peut agir.
Alors il y a trois labels qui existent, le label Parc Plus, la reconnaissance territoire engagé pour la nature et le label territoire durable une COP d'avance. Pourquoi trois labels? Pourquoi ces trois labels différents? Et c'est des labels pour les collectivités. Vous dites aussi que c'est des labels qui sont plus là pour valeur d'accompagnement. Si on a le label, on va être accompagné plutôt que certifier quelque chose comme c'est bon, moi j'agis pour l'environnement. C'est ça?
Tout à fait. Alors, pourquoi trois labels? Ils ont tous les trois une histoire différente. Le label Parc Plus, par exemple, c'était une démarche qui était déjà engagée dans le département du Vaucluse, sur lequel on s'est fondé, mais pour lequel notre agence a travaillé avec les chambres de commerce et d'industrie, bon, qui n'avaient pas forcément le même langage que nous. Donc, on a mis du temps avant d'élaborer ce label, mais ça nous permettait d'étendre cette démarche du Vaucluse à l'ensemble de la région pour accompagner des parcs d'activité sur toutes les thématiques de la transition écologique. Et effectivement, c'est pas un tampon à la fin d'une démarche, c'est plutôt... Il y a trois niveaux, en fait. Pour tous les labels, on procède un peu de cette manière, c'est-à-dire il y a d'abord le parc qui s'engage. On part d'un diagnostic et on dit, par rapport à votre candidature, vous en êtes à tel ou tel niveau. Vous êtes un parc engagé, on le reconnaît. On va vous accompagner sur 3 ans pour atteindre le niveau... ensuite, il y a un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3... de prise en compte des problématiques des enjeux climatiques et d'eau et de biodiversité. Donc on les accompagne pour que sur les 3 ans, ils aient un programme d'action pour aller dans ce sens. Le label Territoire engagé pour la nature, c'est effectivement un label qui est un label national de l'Office français de la biodiversité, que l'OFB nous a demandé de déployer sur le territoire régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, et qui s'adresse effectivement aux collectivités, donc communes et communautés de communes ou métropoles, donc sur le même type de démarche. Et ensuite, le label Territoire COP d'avance, ça c'est vraiment un label régional, qui est adossé en fait à la politique régionale qui est notre plan climat que nous avons voté le premier en décembre 2017 puis que nous avons renouvelé pour en avril 2021 pour la durée du mandat, donc un peu plus de 6 ans, presque 7 du fait des différentes échéances électorales. Donc une COP d'avance, c'est vraiment accompagner les différentes collectivités parce qu'on se dit la région, on peut montrer un horizon politique donc sur du moyen long terme, mais si on est tout seul, nous, région, on ne va pas avancer très vite. Donc l'idée, c'est vraiment de dire aux collectivités, on vous accompagne, si vous voulez être dans le même sens que nous, on vous donne des outils, mais vraiment très, très concrets, très pratiques sur les thématiques et les sujets de la transition écologique, donc biodiversité, économie circulaire, énergie, eau, etc.
Et ces collectivités ont été invitées à cette journée régionale de la Suite Biodive. Est-ce qu'elles sont au courant? Elles sont nombreuses à être au courant des labels et des actions que vous menez?
Ah oui, bah nous, on est toujours en contact avec l'ensemble des collectivités. Alors, c'est vrai que quand il y a des élections, ça change parfois les organisations des communes et les élus. Donc, ça, il faut refaire le travail pour se faire connaître. Et puis, parfois, un maire, il est un peu le nez dans le guidon. Donc, il faut aussi les relancer, leur proposer. Par exemple, c'est un des bénéfices du confinement en 2020, c'est qu'on a développé des webinaires d'une heure sur la pause méridienne, voilà, de midi à 13h. Et du coup, en une heure, on aborde un sujet de manière un peu technique et pratique. Et ensuite, sur une demi-heure, on a un retour d'expérience. Et donc voilà, il faut donner des outils aux maires et aux élus pour aller plus vite, parce qu'on est tous en train de gérer tout un tas de rendez-vous et on s'adapte aux besoins.
Et alors, cette journée, elle a été découpée en plusieurs parties. Et il y a eu une conférence d'ouverture, il y a eu aussi des conférences thématiques qui ont abordé plusieurs sujets, notamment l'aménagement du territoire, qui doit être pensé pour protéger la ressource en eau et la biodiversité, sur la lutte contre les pollutions plastiques, sur les continuités écologiques. Ces trois axes que j'ai un peu pris de la communication sur cette journée, ces trois axes-là, ils vous paraissaient importants, et il y a des exemples qui ont été cités qui vont vers un aménagement, par exemple, du territoire plus conscient, vers une lutte contre les pollutions plastiques. Est-ce que vous avez justement été marqué, frappé par certains exemples qui vont vers du plus positif sur ces trois axes-là ?
Oui, par exemple, je pourrais citer le parc d'activité de la zone des Palus à Aubagne, parce qu'ils sont labellisés Parc Plus. Et c'est un lieu, quand on se l'imagine, la zone des Palus, voilà, c'est plein d'entreprises partout, une zone en partie commerciale, mais beaucoup d'entreprises. Et c'est la prise en compte des problématiques d'eau, avec la gestion de l'eau et d'une partie de zones humides. Donc voilà, un sujet qui n'est pas forcément intuitif pour une zone d'activité, qui a été pris en compte et développé sur ce territoire qui paraissait extrêmement urbanisé. Donc voilà, en fait, il n'y a pas forcément de fatalité sur une commune ou sur une zone d'activité qui paraît extrêmement bétonnée et pas résiliente. En fait, on peut trouver des solutions très, très pratiques et très concrètes. Je pense que sur la prise en compte sur du temps un peu plus long, il y a aussi le fait d'intégrer dans les plans locaux d'urbanisme qui sont de plus en plus intercommunaux ces problématiques de continuité écologique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une continuité écologique ? En fait, on se dit, c'est bien, en ville, on a des jardins publics, des espaces verts, on installe des arbres, mais pour un oiseau, pour un insecte, comment passer d'un espace à un autre, parce qu'ils ont besoin d'avoir parfois, pour certains oiseaux ou certaines espèces, suffisamment de place pour se déplacer de l'un à l'autre. Et en fait, si c'est trop éloigné les uns des autres, les espèces et donc la biodiversité en ville aura du mal à se développer, à trouver son compte. On essaie de développer les trames noires, c'est-à-dire l'absence ou en tout cas la réduction de lumière, parce que il y a des insectes, chauves-souris. Des chauves-souris par exemple. Oui, il y a des chauves-souris en ville et on peut faire en sorte de les aider. Vous savez que ça aime beaucoup les moustiques. D'ailleurs, on a relativement intérêt à ce qu'il y ait encore des chiroptères en ville. Eh bien, ça passe par justement le fait de réduire l'éclairage sur certaines voies qui n'ont peut-être pas, enfin qui sont pas principales et qui n'ont peut-être pas besoin d'avoir de l'éclairage en permanence. Parce que si vous le laissez, tout éclairage, vitrines, éclairage public, etc. En fait, toute cette biodiversité se reportera sur d'autres endroits et vous n'arriverez pas à assurer ces trames et ces continuités écologiques d'un espace naturel, entre guillemets, à un autre. Et voilà, c'est ce qu'il faut travailler, c'est ce qu'il faut intégrer en termes de planification urbaine. Et c'est là où, quand on travaille avec les agences urbaines d'Aix, de Marseille, d'Avignon ou de Toulon, on travaille beaucoup sur ces sujets parce qu'il faut absolument les intégrer dans la planification urbaine. On n'est pas uniquement là pour se dire je crée une zone d'activité, je veux créer des logements. Il faut avoir cette approche globale. On sait que ce n'est pas forcément évident, ça passe aussi par la sensibilisation et puis la formation des élus et des agents, mais voilà, c'est possible de le faire. Il y a des projets très intéressants à Miramas, par exemple. D'ailleurs, j'en profite pour parler d'un autre dispositif qu'on a à la région, qui sont des journées de visite. Pour lesquels on vous propose d'aller sur place pour voir ce qu'une collectivité a pu réaliser. Ça permet d'échanger avec les élus et de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné parfois et qu'est-ce qu'il faut éviter et puis aussi ce qui a très bien fonctionné. Et en général, les élus et les techniciens peuvent parler à des élus et des techniciens et les échanges sont plus efficaces que si c'était nous qui faisions la formation.
Et c'est ce qui se passe à Miramas, par exemple ?
Par exemple, exactement. C'est un exemple, mais je pense à Mouan-Sartou aussi, qui est bien connu pour avoir intégré les problématiques d'alimentation, notamment avec de l'agriculture en proximité, mais aussi beaucoup d'autres problématiques au sein de ses politiques communales.
Et ça passe aussi par des idées de désimperméabilisation du sol, etc.
Oui, tout à fait. Désimperméabilisation, et c'est
dur à dire.
Des cours d'école, par exemple, c'est un projet qu'on a accompagné, nous, alors là, c'est la région, c'est un des volets d'un projet européen, un projet LIFE, vous savez, c'est les projets environnement, les projets LIFE, qui s'appelle Nature for City, la nature en ville, naturons notre ville. Et un des projets, ça a été de désimperméabiliser des cours d'école. On a accompagné la ville de Marseille, par exemple, et la ville de Nice, sur quelques écoles. Et le sujet, c'est pas de dire tiens, on choisit des écoles, on choisit, et puis la commune arrive et on le fait. L'idée, c'est vraiment de le faire en concertation avec le corps enseignant, avec le personnel municipal qui s'occupe de l'entretien, avec les enfants et les parents, et se dire comment est-ce qu'on imagine notre cours d'école, comment est-ce qu'on intègre cette problématique de des imperméabilisations. C'est une cour d'école complètement différente,
faut me dire. C'est de débétonner ce qui existe déjà, moins de béton, c'est ça?
Oui, c'est ça, moins de béton, et puis du coup des espaces de nature, des espaces dans lesquels vous pouvez laisser la nature vivre avec les petites graines apportées par le vent, les petits insectes qui arrivent par eux-mêmes, on se rend compte assez rapidement. Et d'ailleurs, ça peut être aussi en même temps des espaces de potager, donc dans lesquels, en classe de maternelle, c'est génial de voir des enfants planter leurs petites graines, arroser, les voir observer ce qui se passe. Ça fait partie aussi d'une reprise de contact, je pense, des enfants avec la nature, qui est importante et qu'il faut avoir en tête. C'est pas uniquement je désimperméabilise pour que la terre puisse mieux absorber l'eau, ce qui est très important, certes, mais voilà, c'est un ensemble, un projet d'ensemble avec le corps enseignant, et c'est vraiment des projets. Enfin, on a de très très bons retours des villes qui aimeraient bien d'ailleurs que ce dispositif
soit élargi,
parce que c'est vrai que ça demande aussi du temps. Forcément, donc qui dit temps dit forcément de l'argent. Au travers de ce projet LIFE, on a pu voir avoir une méthodologie et voir comment ça fonctionne, et j'espère qu'on aura l'opportunité et peut-être les financements, comme on est beaucoup sur des plans verts, financement de l'État, de l'Europe. J'espère qu'on arrivera à le mettre en œuvre sur le plus d'écoles possible, quand c'est faisable.
Et une autre des thématiques abordées, c'était la lutte contre les pollutions plastiques des montagnes à la mer aussi. Donc qu'est-ce qui pourrait être mis en place de réflexion autour peut-être même de l'objet poubelle, d'inciter au tri, de réduire même la fabrication de plastique et les emballages?
Alors c'est un vaste sujet, les plastiques d'ailleurs, parce qu'on dit souvent le plastique, mais c'est un vaste sujet, et on arrive à travailler avec des associations qui s'engagent beaucoup, parce qu'effectivement nettoyer les milieux, que ce soit en bord de rivière, en bord de lac ou au bord de la mer, c'est important. Mais les associations, les bénévoles qui le font régulièrement vous diront qu'au bout d'un moment c'est presque fatigant, parce qu'on se dit on a l'impression d'avoir d'avoir le tonneau des Danaïdes. Et il y a des démarches intéressantes qu'on a pu financer, notamment avec FNE, France Nature Environnement, au niveau régional. Ils ont fait une étude le long de la Durance, à différents points, et observer quel type de plastique on collecte tout le long de la Durance, avant Serre-Ponçon, après Serre-Ponçon, etc. Et en fait, on trouve des plastiques de différentes origines, ce qui nous permet de se dire, quand on trouve les petits médiateurs plastiques, là, vous savez, je ne sais pas si vous visualisez ça, mais c'est des petits ronds de plastique qui, en fait, sont utilisés dans les stations d'épuration. Quand on envoie en grand volume à un endroit, on se dit, on va peut-être remonter en amont et se dire d'où ça vient. Forcément, que ce soit les entreprises, les agriculteurs ou les stations d'épuration, on ne se rend pas forcément compte de parfois ce qui nous échappe, parce que des agriculteurs, par exemple, utilisent énormément de bâches plastiques. Certaines s'envolent, on a parfois du mal à maîtriser ce qui arrive dans la nature. Mais prendre conscience de ce que ça donne sur l'aval, c'est déjà un premier élément pour pouvoir agir. On a développé aussi, grâce à l'association Mère Terre, un réseau qui s'appelle Remède Zéro Plastique. Et l'idée, c'est évidemment d'aider, d'accompagner toutes les associations qui veulent organiser des nettoyages, mais c'est aussi de leur donner une méthodologie pour constituer une base de données sur l'ensemble du territoire régional. Et cette base de données, c'est justement avoir une idée de qu'est-ce qu'on trouve régulièrement et toujours au même endroit, en quelle quantité, est-ce que ça diminue, est-ce que ça augmente ou est-ce que ça stagne. Et ça nous permet, en tout cas ça nous permettra, je l'espère, de donner aux élus et aux entreprises aussi parfois des outils, en tout cas d'objectiver la quantité de plastique et de leur dire, c'est sur tel levier qu'il faut agir. Est-ce que c'est sur la restauration nomade, comme on dit, c'est-à-dire hors foyer? Est-ce que c'est l'organisation d'un festival sur lequel on peut aller vers le zéro plastique? Et donc ça, c'est les données. Avoir des données, c'est important. Et j'en profite pour parler de la charte régionale zéro plastique, puisque c'est l'agence régionale pour la biodiversité et l'environnement qui l'anime et qui donc va voir un peu tout le monde, tous ceux qui veulent s'engager, entreprises, collectivités, associations et établissements scolaires. Ça peut aussi être des écoles, des lycées. Pour l'instant, il n'y en a pas eu beaucoup, mais elles peuvent le faire. S'engager dans cette démarche zéro plastique, comment je fais pour réduire mon usage des plastiques, parce que les déchets recyclés, c'est une chose, mais si on peut l'éviter en amont, c'est encore mieux. Et donc des collectivités qui s'engagent dans le zéro plastique, par exemple, on a sorti un guide, déjà en leur disant quelles sont les fausses bonnes idées, ou bien comment, par exemple, en utilisant les gobelets réutilisables, c'est intéressant, vraiment intéressant côté plastique, si vous le réutilisez, je crois que c'est au moins 7 fois. Donc il faut avoir quand même essayer d'avoir une démarche complète avec un plan d'action et pas uniquement si je remplaçais des gobelets par des gobelets réutilisables ou bien est-ce que je fais telle petite action. C'est aussi une mission d'accompagnement que fait l'agence pour avoir des actions qui sont plus complètes, plus globales et donc on l'espère en tout cas plus efficaces.
Et alors cette journée régionale Sud Biodiv, c'était un moment aussi d'échange de pratiques. Vous accompagnez tout le long de l'année entreprises, collectivités, toutes les structures que vous avez citées. Et là, c'était le moment de les rassembler pour peut-être qu'elles s'inspirent les unes des autres.
Oui, tout à fait. Mais c'est tout l'intérêt. C'est beaucoup plus facile qu'une visio, évidemment. On retrouve le plaisir de se retrouver autour d'ateliers qui sont à taille humaine et dans lesquels on peut échanger. Parce qu'effectivement, l'exemple de l'un, quand on pose une question, ne sera pas forcément applicable chez un autre. Mais on se nourrit aussi des idées des uns et des autres. Et donc, c'est vrai que on ressort toujours d'une journée comme ça, très, très enrichie.
Alors l'ARB, on peut vous retrouver à Marseille, vous avez une entité à Marseille?
Oui.
Et où est-ce qu'on peut suivre un petit peu toutes vos actualités, tout ce que vous proposez? Et puis peut-être, donc on a déjà Remède Zéro Plastique, mais peut-être des chiffres, des textes pour prendre en conscience un peu toutes les problématiques liées à l'environnement.
Alors on a un site internet, arbe-regionsud.org, je crois, j'espère que je ne me trompe pas. on avait une page Facebook, mais je crois qu'on a eu un petit souci, donc je crois qu'on n'y a plus accès, donc je ne la donne pas comme exemple. Et sinon, on a toujours un compte Twitter, donc sur lequel on diffuse soit notre actualité avec la sortie de différents guides, ou bien les webinaires, ou les visites dont je vous parlais, le BioDiv Tour. Donc voilà, il y a un compte Twitter à suivre régulièrement sur lequel vous avez l'actualité, et sur le fond vous avez beaucoup de choses sur le site internet.
Et à l'ARB, votre siège est à Marseille, mais comment est-ce que vous agissez sur chaque petit territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
On se déplace, en fait. Oui, on a une agence ici qui est vraiment, qui est plus nos bureaux, en fait. Hein. C'est pas vraiment fait pour recevoir beaucoup, beaucoup de monde. Donc, il peut y avoir des petites réunions. Mais en général, notre rôle, c'est vraiment d'être près des territoires. Donc, quand on organise une formation, ce sera dans une commune ou dans une association. On se déplace sur l'ensemble du territoire et ça nous permet d'abord d'être en situation quand on fait une visite d'un site ou d'une collectivité, et puis aussi d'avoir plus facilement les retours de savoir comment ça se passe, quels sont les besoins aussi, les attentes des personnes chez qui on va.
Merci beaucoup Anne-Claudius Petit, présidente de l'ARB, d'avoir présenté cette journée régionale Sud Biodiv. On reste attentif aux prochaines éditions et à ce qui pourra en ressortir en termes de réflexion pour le futur.
Merci à vous.